Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais recevoir comme invité l'ancien du Rouge et Noir d'Ottawa, Jean-Philippe Bauduc, en compagnie de Jean-Philippe. Bon, on va parler des Alouettes. Hein, les Alouettes sont vraiment dans une belle position afin de s'assurer d'une place en éliminatoire à la suite de leur victoire au cours du week-end dernier à Edmonton contre les Elks. Et ensuite de ça, bon, on va parler des rencontres qui ont retenu notre attention du côté de la NFL lors de la quatrième semaine d'activité qui est terminée. Ça sera déjà la cinquième semaine qui va commencer dès jeudi soir. Et ensuite de ça, ben, Marc-André Chaloux sera de passage afin d'y aller de ses recommandations au niveau du waiver wire. On parle bien sûr de fantasy football, les recommandations de Marc-André qui ont bien fonctionné la semaine dernière, notamment avec sa recommandation de faire jouer absolument Jared Goff. Mais cette fois-ci, on va se concentrer sur le waiver wire. Alors, sans plus tarder, on va recevoir Jean-Philippe Bauduc. Jean-Philippe, merci d'avoir accepté mon invitation afin de participer au podcast. Écoute, on a beaucoup de sujets à discuter. On va commencer avec les Alouettes, parce que là, les Alouettes ont gagné à Edmonton. Et à la suite de cette victoire-là, ben, le scénario pour les éliminatoires est simple. Les Alouettes vont jouer lundi contre ton ancienne équipe, le Rouge et Noir d'Ottawa. Avec une victoire lundi le 10 octobre, ben, les Alouettes seront assurées d'une place en éliminatoire, seront assurées du deuxième rang du côté de la section Ouest. Et le premier rang est toujours à l'enjeu, étant donné que Toronto a perdu contre Calgary le week-end dernier. Alors écoute, tout d'abord, qu'est-ce que tu as pensé de la performance des Alouettes à Edmonton? Pour une rare fois cette saison, ils ont été en mesure de terminer la rencontre en force au quatrième quart.
Je pense que c'est l'important pour eux autres à ce temps-ci de l'année, c'est d'être capable de gagner des matchs serrés où la défensive est extrêmement importante. Et ce qu'on a vu, c'est un toucher défensif qui a donné la victoire pour les Alouettes à Edmonton. Un retour aux ressources un peu pour plusieurs personnes dans l'organisation. Trevor Harris, Danny Machocha, Noel Thorpe. Toutes ces personnes-là, probablement une petite vengeance. Peut-être moins pour Danny parce qu'on parle de ça depuis quasiment plusieurs décennies. Là, mais non, c'est un bon match de football du côté de la défensive. Il semble de plus en plus confortable avec le système de Noel Thorpe. Il faut être optimiste pour les séries qui s'en viennent. Ils jouent leur meilleur football au bon moment de l'année.
Ben oui, écoute, les Alouettes sont l'équipe de l'heure dans la Ligue canadienne. Ils ont gagné 5 de leurs 6 derniers matchs, si bien que maintenant, ils ont un dossier égal à 500, 7 victoires et 7 défaites. À un certain moment donné, ils avaient une fiche de 2 et 6, puis on se disait, mon Dieu, est-ce que la saison va virer au désastre? Mais là, comme tu l'as dit, la défense semble s'ajuster au système de Northrop. Il y a également Anthony Calvillo en attaque qui utilise plus le jeu au sol qu'il ne le faisait. Là, ça a été long. Toute l'attaque des Alouettes était très unidimensionnelle. Mais tu sais comme moi, lorsque ça arrive, c'est difficile de contrôler le rythme des rencontres. Surtout quand à l'avance, il faut que tu cours avec le ballon là, afin de réduire le nombre de possessions de l'équipe adverse. Ça, c'est une des raisons pourquoi les Alouettes avaient permis notamment à Edmonton de revenir dans le match le 14 juin à Montréal lorsque les Alouettes s'étaient inclinées contre les Elks. Mais là, on voit vraiment une amélioration du côté des hommes de Danny Machocha. Ça, c'est vraiment encourageant à l'approche des matchs éliminatoires. Et puis, il y a Eugene Lewis qui a encore une fois connu un fort match pour les Alouettes à Edmonton. Comme je disais, les Alouettes vont affronter ton ancienne équipe, le Rouge et Noir d'Ottawa, lundi prochain au stade de Percival Molson à 13h. Le Rouge et Noir, bon, c'est la pire équipe de la Ligue canadienne de loin, on s'entend là-dessus. Mais là, ils viennent de congédier Paul Lapolice. Est-ce que tu crois que ça pourrait avoir un effet là, motivant pour les joueurs du Rouge et Noir ou est-ce que tout simplement du côté de la formation d'Ottawa, les valises sont faites et on attend que cette saison désastreuse soit juste terminée?
L'entraîneur par intérim, l'entraîneur-chef par intérim, Bob Dice, qui est un excellent entraîneur, qui est, je dirais, c'est rare de dire ça, mais confortable dans la position d'entraîneur-chef par intérim, lui qui l'avait été en Saskatchewan en 2015. Même concept, entraîneur en fin de saison qui était remercié. Lui qui, depuis longtemps, coordonnateur d'une unité spéciale dans la Ligue, est promis, c'est un excellent motivateur. Développe une très, très bonne relation avec tous les joueurs de l'équipe, autant à la défensive qu'à l'offensive. Moi, je suis surpris que ce gars-là n'ait pas encore eu de job d'entraîneur-chef à temps plein dans la Ligue canadienne. J'ai comme l'impression un peu que le plan, ça va être lui l'entraîneur-chef l'an prochain. Toute une question de cap salarial là, côté du front office qu'on appelle maintenant une nouvelle dynamique dans la Ligue canadienne depuis quelques années. Fait que je pense que ça va être lui qui va l'être. Il va vouloir se prouver immédiatement. Tout dépend un peu de ce comment Masoli s'il va jouer. Je pense pas. Mais si Arbuckle est capable de tenir un match potable, je pense qu'il va donner une chance à Ottawa d'offrir certainement une bonne opposition à Montréal pour un match qui est tout le temps le fun, surtout qu'il annonce beau. Le match d'Action de grâce à Montréal le lundi après-midi, c'est toujours le fun. Avec Bud Dice qui va motiver ses troupes. J'espère que les Alouettes ne prendront pas ça, le match à la légère, mais je doute fortement que Ottawa gagne.
En tout cas, ça va être à surveiller. Hein, comme je disais, peut-être que ça va amener de l'énergie à Ottawa, le congédiement de Paul Lapolice. Mon Dieu, qu'on a attendu longtemps pour le congédier. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne maintenant qu'il n'est plus là, là. Mais non, effectivement, les Alouettes, comme tu dis, vont devoir se méfier. Danny Machocha le répète semaine après semaine que la saison, c'est une saison d'un match. Bon, du côté des Alouettes, on se concentre seulement sur la prochaine rencontre. Alors, c'est ce qu'on doit vraiment faire. Il n'y a aucun doute que Montréal est la meilleure des deux équipes. Mais il faut se méfier quand même du rouge et noir. Puis, c'est avec Bob Dice, on n'aura rien à perdre. Peut-être qu'on va utiliser des jeux truqués, peut-être avoir des surprises. Donc, on doit être alerte au niveau des unités spéciales, notamment des Alouettes de Montréal. Alors, ce match sera bien sûr présenté sur les ondes de RDS lundi le 10 octobre dès 12h30 avec l'émission d'avant-match. Je répète, les Alouettes vont avoir la chance de s'assurer d'une place, de participer aux éliminatoires. S'ils sont en mesure de faire, ben ça va être pour une troisième année consécutive, une troisième saison de suite. Bon, maintenant, écoute, on va se tourner du côté de la NFL. On va commencer avec le match du lundi soir qui mettra aux prises les Rams de Los Angeles aux 49ers de San Francisco. Ça a été une victoire des Niners. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre, Jean-Philippe? Moi, personnellement, j'ai vraiment été déçu par la performance des Rams, mais je vais te laisser y aller en premier.
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. On semblait avoir une équipe, là, excuse-moi l'anglicisme, là, stacké là, avec un défensif dominante, Bobby Wagner, et une bonne tertiaire. On perd contre Jimmy Garoppolo, qui était supposé être un vrai deuxième carrière cette année, un vrai deuxième QB, là, second string quarterback. Puis Jimmy G qui semblait confortable, à l'aise, qui jouait du bon football, mais je suis vraiment déçu des Rams cette saison.
Ouais, ben écoute, moi je me demande si du côté des Rams, c'est pas tous les choix repêchage qu'on a échangés lors des dernières années pour aller chercher Von Miller, Odell Beckham. En fait, Odell Beckham, bon, on l'avait mis sous contrat, si je me souviens bien, je crois que est-ce que les Browns, ouais, tu peux me dire ça, son ancienne équipe, les Browns avaient libéré, tu
sais. Ouais, ouais. Odell. Exactement.
Ouais, ben il y a eu
pour gratuit.
Ouais, pour rien, là, on l'a eu, c'est ça, pour gratuit. Hein, ça, c'est ton club, les Browns. On va avoir la chance de parler des Browns un peu plus tard. Mais tout ça pour dire. Les Rams, ils ont donné beaucoup de choix au repêchage afin d'aller chercher des joueurs vétérans. Écoute, là, leur recette a fonctionné. Ils ont été en mesure de gagner le Super Bowl. Mais là, je me demande si tout ça n'est pas en train de venir les rattraper. Parce qu'on l'a vu, la ligne d'attaque est décimée par les blessures. Stafford a été victime de 7 sacks, JP. 7 sacks. C'est la deuxième fois cette année, ça arrive. Souviens-toi, lors du premier match de la saison contre les Bills, il avait été victime de 7 sacks du quart. À mis à part Cooper Kupp, le groupe de receveurs, Allen Robinson, on l'a ciblé quelques fois, mais ça fonctionne pas jusqu'à présent. Donc, ça va être quelque chose à surveiller parce que c'est pas la même équipe des Rams l'année dernière. Justement, OBJ était là l'année dernière afin de donner un coup de main à Cooper Kupp. Là, c'est comme si Kupp était tout seul.
Oui, c'est ça. J'ai l'impression que avec le temps, Sean McVay devient prévisible. Je dirais quasiment 50% des jeux par la passe. Cooper Kupp est la première lecture. Tu coupes la première lecture à un joueur comme ça, Matthew Stafford devient un peu hésitant. Allen Robinson, qui semble pas vraiment visé sur vraiment des jeux destinés pour lui, il devient un peu des deuxièmes lectures. Je trouve qu'on prend pas avantage. Cam Akers, qui était probablement la plus grosse déception du fantasy cette année, premier match a été pitoyable sur le banc. Une équipe un peu méconnaissable, manque un petit peu d'inspiration de leur côté. Matthew Stafford qui retourne à ses bonnes vieilles habitudes de se faire saquer abondamment quand il était au Lyon. Pauvre gars, il doit être magané, il doit avoir mal partout au corps. Mais non, un match décevant.
Ouais, et puis le fait qu'il se fait frapper, bon, ça mène à des revirements. Il a été victime d'une interception qui a été retournée pour un toucher. Mais même du côté de la défense, afin de presser les carrières adverses, Aaron Donald, bien sûr, mais après ça, il n'y a personne d'autre. Leonard Ford est invisible ou presque depuis le début de la saison. Von Miller n'est plus là, comme je le disais tout à l'heure. En tout cas, ça va être à surveiller, mais les Rams sont décidément pas la même équipe qu'ils étaient l'année dernière. Puis les Niners, ben, ça a vraiment été une belle performance Écoute, tout un touché, passé course de 57 verges inscrit par Deebo Samuel, ça a été vraiment un jeu spectaculaire. La défense continue de jouer de l'excellent football sous la supervision du coordonnateur de Miko Ryan. Alors écoute, lorsque le jeu au sol fonctionne, Jeff Wilson a réussi une longue course pour un touché tôt dans le match. Ça simplifie le travail pour Jimmy Garoppolo. Maintenant, on va aller du côté de l'association américaine. Les Bills de Buffalo ont gagné 23-20 contre les Ravens de Baltimore. C'était l'égalité 20-20 vers la fin du quatrième quart. Les Ravens avaient l'opportunité de prendre l'avance avec un botté de précision. John Harbaugh a décidé de parier et d'y aller pour le toucher. Et ça n'a pas fonctionné. Ça fait en sorte que Josh Allen s'est amené sur le terrain. Il a traversé le terrain pour donner la victoire aux Bills. Qu'est-ce que tu as pensé de cette décision-là, John Harbaugh? Il a donné des explications après la rencontre. Pour moi, ça ne faisait aucun sens.
Non, je suis d'accord avec toi. Une offensive qui a de la misère à bouger le ballon, que tu te dis si on va en surtemps, c'est en prolongation, c'est pratiquement impossible qu'on gagne. On a de la misère à faire des verges, garde, je suis allé pour la victoire. Non. Ton corps arrière bouge le ballon, ton offensive est tête à tête avec l'autre offensive. C'est un bon match. Tu es capable de scorer des points. Prends le botté de précision. On va en prolongation, puis on parie sur notre offensive qui va continuer à faire du bon travail. Là, est-ce que sa réflexion a été que je ne suis pas capable d'arrêter Josh Allen. Je ne comprends pas trop la réflexion. Mauvaise décision, je pense. Puis on voit Lamar Jackson était complètement déçu de ne pas avoir eu la chance d'amener son équipe en prolongation.
Ben, c'est ça. T'sais. Bon, même s'il a peur de Josh Allen, même s'il croit que sa défense n'est pas en mesure de ralentir l'attaque des Bills, mais si tu vas avec le botté de précision, ben, même pour la défense là, des Ravens, à ce moment-là, là, c'est peut-être plus facile là, de défendre le terrain là, une fois que tu as réussi à prendre l'avance. Et puis, si tu rates le botté de précision, ben là, les Bills auraient eu à traverser 97 verges pour le toucher. Parce que, bref, ça a aucun bon sens. Ça a aucun bon sens, cette décision-là de John Harbaugh, tant qu'à moi. On a vu Marcus Peters, ami de coin, lui, qui était frustré après Harbaugh, après la rencontre. Pour les Bills, ils ont mis fin à une séquence de 7 défaites de suite, au cours desquelles ils ont perdu des matchs par une possession. Okay? Ils étaient 0-7 lors de leur 7 dernières rencontres d'un match d'une possession. Alors ça, c'est une bonne chose qu'ils ont été en mesure de gagner. Le travail de la défense des Bills, on a complètement éliminé Mark Andrews et les rapprochés étoiles des Ravens de Baltimore. 2 réceptions pour 15 verges seulement. Alors, c'est lui le receveur numéro 1 de Lamar Jackson. Alors, bon travail de la part de la défense de Buffalo. Maintenant, ton club, les Browns de Cleveland. Ils étaient à Atlanta contre les Falcons. Les Falcons l'ont emporté par 3 points, 23-20. Écoute, c'est ton équipe. Je ne sais pas si tu veux te vider le cœur, les Browns, mais je te donne une page blanche. Je t'écoute, JP. Parle-moi.
mais j'ai pas. Je suis pas tant triste que ça parce que mon club est 2-2. Tu m'avais dit, avec toute la saga qu'il y en a eu cet été, que mon club serait 2-2, je t'aurais probablement pas cru. Je trouve que Jacoby Brissett donne une chance de compétitionner à chaque semaine. Là, c'est décevant d'avoir perdu contre Atlanta, mais on est encore là. On est 2 victoires, 2 défaites. On joue du football de survie. J'aimerais ça qu'on se rende au 11e match, ben au 12e, parce que je pense que Deshaun Watson est suspendu 11 matchs, donc au 12e, il va pouvoir revenir, en étant encore en vie, puis que la magie de Deshaun Watson d'il y a 3-4 ans revienne, puis que finalement, ça en a valu la peine. Mais ça me semble pas si pire que ça, à moins que je me trompe, que je suis un peu biaisé parce que c'est mon équipe. Par contre, il faut que je note que la fin du match a été scellée avec l'interception de Dee Alford, un joueur qui jouait à Winnipeg l'an dernier dans la Ligue canadienne, qui se retrouve constamment sur le terrain pour les Falcons et qui a fait de l'interception dans la zone des buts pour mettre fin au match.
Oui, ben c'est bien que tu soulignes cette performance de l'ancien joueur de la Ligue canadienne. Écoute, si c'est vrai ce que tu dis, là, je crois que la majorité des gens s'attendaient à une saison désastreuse du côté des Browns une fois que Deshaun Watson a été suspendu. Mais qu'est-ce qui est décevant, c'est que, bon, on a perdu contre les Falcons qui sont très combatifs depuis le début de la saison sous les ordres de Arthur Smith, mais on a quand même perdu contre une équipe où le carrière a complété seulement 7 passes durant le match. 7 passes complétées pour Marcus Mariota. Imagine-toi.
Je pense 140 verges.
Ouais, je n'ai pas le total de verges. Je n'avais pas inscrit dans mes notes, là, mais c'est pas beaucoup, là. Ben, c'est sûr, c'est pas beaucoup de compléter juste cette passe, hein, c'est ça. Fait que ça peut pas être 300 verges, c'est certain. Mais tout ça pour dire que c'est ça. On avait une opportunité d'être 3 et 1, mais comme tu le dis, 2 et 2, si quelqu'un te l'avait dit avant le début de la saison, qu'après un mois d'activité, les Browns auraient une fiche égale à 500, tu l'aurais pris. Puis lorsque tu as un dossier égal à 500, tu as des chances généralement de participer aux éliminatoires. Pour les Falcons d'Atlanta, c'est malheureux, ils ont perdu les services de ce qui a été depuis le début de la saison. Leur meilleur joueur à l'attaque, le demi-offensif, Cordarrelle Patterson, il a subi une blessure, va être absent pendant quelques semaines. Donc ça, c'est malheureux parce que Patterson, il a tellement une carrière unique, il est rendu quoi, sa 9e, 10e saison dans la NFL, puis ça fait juste 2-3 ans qu'il joue à la position de demi à l'attaque, lui qui était un receveur de passe avant. C'est quand même unique comme carrière que tu es rendu genre à ta 8e saison, finalement, on change de position, puis que tu deviens un joueur étoile à cette position-là. Mais bon, là, il ne sera pas là pendant quelques semaines. Alors ça augure mal pour les
Puis si je me
Falcons, comme
trompe
je viens
pas,
de te dire.
je pense, si je me trompe pas, excuse-moi de t'interrompre, je pense que
Non, non, vas-y.
c'est comme sa huitième équipe aussi en plus. C'est comme s'il y a 8 coachs avant qui n'ont rien vu vraiment en lui. En plus, c'est un choix de première ronde. Là, tout d'un coup, avec Atlanta, on le voit, il est au porteur de ballon, puis ça marche super bien. Tant mieux pour lui, puis c'est super bon pour les fantasy.
Ouais, non, c'est ça. Écoute, il avait été repêché par les Vikings. Il avait été un choix pour un rôle des Vikings. Après ça, il a joué quoi? À Chicago. Il a joué pour les Raiders. C'est avec les Patriots, c'est la première fois qu'on a commencé à l'utiliser comme demi à l'attaque. Bill Belichick avait commencé à faire ça parce que je crois qu'on avait des blessures dans le champ arrière de la Nouvelle-Angleterre. Il l'avait utilisé pendant quelques matchs. Donc c'est ça. Mais écoute, hey, tant mieux pour lui, mais malheureusement, là, il est blessé. Alors, on va voir si les Falcons vont pouvoir continuer de surprendre. Ils ont quand même un dossier de 2 et 2. Ils sont à égalité au premier rang de la section sud de la Nationale avec les Buccaneers. Imagine-toi. Alors ça, c'est une autre équipe. Après un mois d'activité, on n'aurait jamais cru qu'ils auraient un dossier égal à 500. Maintenant, dans le match qui m'intriguait le plus, je sais, là, Bills, le match qui m'intriguait le plus, c'était les Jaguars de Jacksonville qui allaient à Philadelphie contre les Eagles. Les Eagles, qui étaient la seule équipe invaincue de la NFL, sont demeurés invaincus. Mais les Jaguars, pour moi, sont vraiment une bonne équipe, là. Okay? Ils ont des bons éléments. J'en parlais la semaine dernière. J'aime notamment le front de leur défense. Trevor Lawrence démontre une progression maintenant qu'il y a un vrai entraîneur-chef du côté des Jaguars de Jacksonville. Mais ils ont perdu 29 à 21 contre les Eagles de Philadelphie. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre, justement, des Jaguars et des Eagles?
L'efficacité des Eagles. Semble une équipe qui joue bien ensemble. Non, c'est surprenant comment ils sont efficaces. Je trouve que les Jaguars, ils progressent. Je trouve que Trevor Lawrence progresse bien, mais là, faut qu'il embraye, là. Comme on l'a vu, c'est sensiblement les mêmes statistiques, les mêmes décisions que la fin de la saison l'an dernier, que le début de la saison. Doug Peterson, qui semble être un génie offensif. Moi, je pense que c'est plus eux qui sont décevants que les Eagles qui sont surprenants. Les Eagles qui sont tout de même 4-0, j'aurais jamais. Si je ne me trompe pas, c'est la dernière équipe qui est invaincue dans la NFL cette année.
Oui, exact.
Non, c'est. Ils ont des beaux outils. Devonta Smith qui trouve qu'il tire bien le terrain. Non, c'est les Eagles qui sont efficaces.
Ouais, ben écoute, du côté des Jaguars, ils avaient bien commencé la rencontre. Ils menaient 14-0. Je me disais, bon, ben ça y est, on va assister à une surprise. Mais la température a vraiment affecté la performance de Trevor Lawrence. Il a été victime de 5 revirements à lui seul, dont 4 échappés. Faut vraiment que tu sois malchanceux, pareil, hein. Échappé le ballon 4 fois, puis aucune fois, il y a un de tes coéquipiers qui est tombé sur le ballon pour recouvrir l'échappé. Mais 5 revirements, naturellement, tu peux pas gagner, là, avec 5 revirements à la position de carrière. Miles Sanders, le demi à l'attaque des Eagles, a connu tout un match. 27 courses, 134 verges, 2 touchés. Alors, même si Jalen Hurts a connu son pire match, entre guillemets, de la saison, puis ça a été tellement éblouissant, on a trouvé une autre façon de gagner du côté de Philadelphie. On a tiré de l'arrière tôt dans le match, comme je le disais. Malgré tout, on a utilisé le jeu au sol, puis ça a fonctionné. Puis l'unité défensive, en plus de revirement, bien, elle a réussi 5 sacs du quart aux dépens de Trevor Lawrence. 2 qui ont été réussis par Hassan Reddick. Je vais y aller d'une prédiction, JP. Je serais pas surpris, moi, si les Eagles perdent maximum 3 matchs en saison régulière seulement. Je sais que ça paraît gros de dire ça, mais je regardais leur calendrier relativement facile. La façon dont ils jouent, Je pourrais les voir finir avec une fiche de 14 et 3 là, ou de 13 et 4 facilement, puis d'être la première tête des séries du côté de l'Association nationale. Bref, il reste encore beaucoup de football à être joué, mais ça peut être une possibilité. En tout cas, les Go s'en vont en éliminatoire, ça, je pense qu'on s'entend là-dessus, là. Maintenant, à Pittsburgh, les Steelers ont perdu 24 à 20 contre Zach Wilson et les Jets. Wilson qui prenait part à son premier match de la saison, lui qui avait subi une blessure à un genou lors des matchs préparatoires. Et puis Zach Wilson, bon, connaissait pas un bon match jusqu'au quatrième quart où les Jets ont marqué 14 points. Puis notamment, là, il a orchestré une séquence de 10 jeux, 65 verges, au cours duquel il a converti 5 premiers essais. Il a été 5 en 5 lors de cette séquence. Ça s'est terminé avec le toucher de Breece Hall. Du côté des Steelers, Kenny Pickett s'est amené en relève à Mitchell Trubisky, qui était égal à lui-même. Pickett a donné beaucoup d'énergie aux Steelers, mais il a été victime de 3 interceptions. Il faut dire que 2 de ses passes ont été déviés. Il a inscrit 2 touchés au sol. Qu'est-ce que tu as retenu, là, justement, de la performance de Zach Wilson et celle de Kenny Pickett?
Ben, Zach Wilson, c'est rassurant pour les partisans des Jets. Il ne semble pas être embêté là, après son opération ou sa blessure. Au quatrième quart, c'est le joueur qu'on a vu à BYU court un peu partout et tire le jeu. Joueur dynamique malgré son petit gabarit. C'est le fun pour eux autres de faire preuve de combativité. Mais là, chez les Steelers, par exemple, de l'autre côté, Kenny Pickett, qui est une difficile première saison, là, je pense 3 interceptions, si je me trompe pas.
Mais c'est un peu plus difficile.
Ouais. Mais quand même, c'est un départ un peu plus moins bon qu'espéré, je pense, pour lui qui a dominé à l'Université de Pittsburgh. Il joue dans le même stade qu'il joue à l'université. Fait que il peut pas être inconfortable dans son environnement. Il reste dans le même environnement. Mais je pense qu'on a besoin un peu plus de soutien, un peu plus d'encadrement. Ça fait quelques saisons là, qu'on a de la misère à identifier le successeur à Ben Roethlisberger. En espérant que Miss Pickett se replace. Mais c'est un peu plus difficile qu'espérer, je pense, comme début de saison pour un choix de première ronde.
Ben écoute, je pense du côté des Steelers de Pittsburgh, bon, Pickett s'est amené en relève à Trubisky durant la rencontre qui lui en arrachait. Comme je le disais tout à l'heure, il était égal à lui-même. Je pense que la chose à faire, c'est de continuer avec Kenny Pickett. Même si le calendrier des Steelers est très difficile, au cours des prochaines semaines, il va affronter de très bonnes équipes. Ben écoute, faut que tu vois s'il est en mesure, s'il a le potentiel d'être le carrière numéro un de l'équipe pour les années à venir, parce que ça devrait être une bonne cuvée de carrière l'année prochaine au repêchage. Alors, si tu te demandes qu'il n'est pas capable, peut-être que là, tu pourras en repêcher un autre, mais j'ai peur pour Mike Tomlin. On sait que Mike Tomlin, il n'a jamais eu une fiche perdante depuis qu'il est à la barre des Steelers de Pittsburgh. Ça fait quoi, là, 15-16 saisons? Je pense que cette année, ça va être la première. Là. Ça va être sa première fiche perdante. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais les Steelers sont juste pas une bonne équipe. La défense est bonne, mais en attaque, c'est pas juste la position carrière, mais on est brouillon en attaque.
Oui, c'est le bon terme, c'est très bien dit. On est brouillon en attaque, on ne semble pas vraiment organisé. C'est sûr que quand tu perds un carrière comme Ben Roethlisberger, que Mike Tomlin a seulement connu comme carrière, c'est une équipe qui... Steelers-Pittsburgh, c'est synonyme de stabilité. Seulement 3 entraîneurs-chefs, pratiquement... depuis que moi, je regarde le football un carrière. Oui, c'est ça, 3 entraîneurs-chefs en 60 ans... 6 Super Bowl, si je me trompe pas. Mais là, on rentre dans un crunch pour eux autres dans les prochaines années. Il va falloir prendre des décisions qui vont être difficiles. Puis c'est une organisation qui a pas l'habitude de prendre ces décisions-là quand tu fais face à autant de stabilité dans les dernières années. Un peu comme les Patriots prochainement, on semble un petit peu plus prêt à ça. J'ai l'impression qu'on avait prévu le départ de Tom Brady un peu plus à l'avance que le départ de Roethlisberger chez les Pittsburgh, mais on a certainement eu la difficulté à identifier le successeur là, comme carrière de franchise là, dans cette équipe-là. Mais comme tu dis, il y a 2-3 bonnes QV qui s'en viennent, dont l'année prochaine. Donc, on a des décisions à prendre. On devrait évaluer Kenny Pickett rapidement pour savoir si on met tous nos œufs dans le même panier là-bas.
Oui, bien écoute, on va rester du côté de l'association américaine. Alors que les Raiders de Las Vegas, finalement, ils ont décroché une première victoire cette saison. Ils ont maintenant un dossier de 1 et 3. Ça s'est fait en défaisant leur rivaux de section, les Broncos de Denver. Donc, c'était une victoire des Raiders par la marque de 32 à 23. Est-ce que toi, tu es inquiet là, de ce qui se passe à Denver? Parce qu'on en parle depuis la première semaine d'activité, depuis ce fameux match du lundi soir où Russell Wilson effectue un retour à Seattle face aux Seahawks. Puis, cette performance-là avait laissé des gens incrédules, surtout la performance également de l'entraîneur-chef Nathaniel Hackett. Il me semble que l'attaque des Broncos a mieux paru lors de ce match-là, mais toutefois, on a perdu.
Ouais, mieux paru un peu. Mais c'est quand même pas une offensive ou une performance valable d'un carrière qui vaut un quart de milliard. C'est très décevant. C'est, j'ai un ami qui est fan des Broncos, puis il ressent un peu le même sentiment que moi les dernières années avec les Browns, mais c'est très décevant. Autant décevant que pour les Raiders. Eux, avec l'acquisition de Devontae Adams, on se dit OK, là, avec Wallin. Devontae Adams et le carrière qui sont des Derek Carr, qui sont des amis de longue date, des coéquipiers de l'université. Si je ne me trompe pas, Devontae Adams a acheté une maison sur la même rue. On s'est dit, OK, c'est la connexion de 1300, 1400 verges par saison qui s'en vient. On retourne à leur succès universitaire. Ils semblaient filer le parfait bonheur, mais on a la misère vraiment à mettre un match au complet ensemble. Puis moi, je pense qu'ils ont gagné parce que c'était contre les Broncos. Ils auraient affronté n'importe quelle autre équipe. Je pense qu'ils étaient un peu plus en contrôle cette saison et on aurait eu de la misère un peu.
Ah ben, qu'est-ce qui a aidé les Raiders? Ça a été l'échappée de Melvin Gordon qui a été retourné jusque dans la zone des buts. Ça a été un des points tournants de la rencontre. Melvin Gordon, c'était déjà son quatrième échappée de la saison. Quatrième échappée en quatre matchs. Là. Ça n'a aucun bon sens. Puis là, en plus, on a appris qu'on va être privé des services de Javonte Williams, notre autre demi à l'attaque pour le reste de la saison. Il s'est déchiré un ligament croisant antérieur. On a perdu les services d'ailier défensif Randy Gregory également durant le match. Il va être absent pendant quelques semaines, si je ne me trompe pas. Donc, les blessés commencent à s'accumuler là, du côté des Broncos. On était privé des services de l'excellent maraudeur Justin Simmons. On a perdu le receveur de passe Tim Patrick lors du camp d'entraînement. Donc, je n'ai pas l'impression que les choses vont s'améliorer pour Nathaniel Hackett. Et Russell Wilson. Bref, ça reste à voir tout ça, mais ça augure mal, là, j'ai l'impression, à Denver. Bon, ben écoute, le moment est venu de dévoiler là, nos réactions excessives, nos overreactions à la suite de la troisième semaine d'activité. Je vais te laisser y aller en premier. JP, quelle est ta réaction excessive?
La médiocrité excessive du médecin des Dolphins de Miami. C'est pas tout à fait la bonne catégorie, mais il faut noter. Comment être mauvais dans son emploi? Ouais. Comment être exécrable dans son emploi? Inacceptable à part d'un médecin d'avoir permis à toi non seulement d'être retourné au jeu au match précédent, mais de l'avoir laissé jouer le match suivant en espérant qu'il se remettra de tout ça sans séquelles permanentes, sa vie va bien se dérouler, mais par expérience, ça peut être assez triste. Je me rappelle quand j'étais au Cégep, un joueur de l'Université Bishop là, qui avait subi une commotion cérébrale, qui était retourné dans le match et qui s'est finalement effondré dans le vestiaire à la demi et qui aujourd'hui est blessé à vie, qui demeure dans un centre pour personnes handicapées à Winnipeg et qui est handicapé à vie là, pour ça. Donc, c'est des trucs qui sont vraiment pas à prendre à la légère. Et là, on parle d'une université d'il y a peut-être 10-12 ans avec des moyens peut-être plus limités. On parle d'une franchise qui vaut des milliards. Je suis le propriétaire aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment en furie contre le médecin parce que non seulement la santé du joueur, mais c'est une entreprise. Et excusez-moi l'anglicisme, mais ses assets en toi sont son avenir. Et là, tout est en train de s'effondrer.
Oui, ben écoute, on a congédié là, le pas le médecin, mais le l'employé de la Ligue. Là, ben, en fait, oui, c'est un médecin indépendant qui était censé de juger de l'état d'Ottawa lors du premier match à Buffalo, lors de sa première commotion cérébrale. Mais pour moi, c'est juste un bouc émissaire. Parce que du moment qu'on a les images, tu vois que le joueur. Et sa tête a frappé contre le gazon, il tente de se relever, qu'il a de la misère, qu'il retombe. Regarde, là, ça ne te prend pas des études en médecine pour te rendre compte que il a fort probablement été victime d'une commotion cérébrale. Donc, il me semble qu'il y a bien d'autres personnes que le médecin qui auraient dû prendre la décision de ne pas renvoyer Tua dans le match. Écoute, c'est lamentable tout ce qui s'est passé. Tu sais, l'exemple du joueur de Bishop que tu as mentionné, Charles, c'est pas ça qui est arrivé à Tua. Mais une chose qu'on sait des commotions cérébrales, lorsque tu es victime de deux commotions cérébrales dans un court laps de temps, comme ça a été le cas pour toi, deux commotions en 4 jours, tu deviens plus susceptible d'être victime de commotions cérébrales plus tard. Alors, moi, j'ai hâte de voir quand est-ce qu'il va revenir au jeu. Là, ils ont déjà dit qu'il n'allait pas jouer cette semaine, mais au moins, ça devrait prendre peut-être 5 à 6 semaines avant qu'on le revoie. Là, tu parles de deux commotions cérébrales en 4 jours. C'est vraiment beaucoup. Là. Moi, j'en ai eu des coéquipiers à l'université qui avaient eu des commotions cérébrales comme ça, rapidement, très rapprochées. On veut ça qu'on avait un délit rapproché, notamment. À un certain moment donné, on ne le voyait plus. Là, je l'ai vu dans la cafétéria. Je suis comme, mec, qu'est-ce qui se passe avec toi? On ne te voit plus. Là, il m'avait dit, justement, à cause qu'il y avait eu quelques commotions cérébrales très rapprochées, qu'il y avait des symptômes, qu'il n'était même pas capable de rester concentré dans la salle de classe. Il passait ses journées dans sa chambre, dans le dortoir, avec dans la noirceur, puisque même la lumière l'affectait. T'sais, il fermait les rideaux. Puis là, ça a mis fin à sa carrière dans les rangs universitaires. Donc, c'est vraiment sérieux. Puis on parle même pas des gens qui ont perdu la vie dans de pareilles circonstances. Alors, en tout cas, on va voir quand est-ce que toi va revenir au jeu. Ben, en tout cas, j'aime bien ton choix comme réaction excessive. En fait, c'est pas une réaction excessive, c'est vraiment ça, là, ça. C'est comme je l'ai dit, c'est déplorable qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Pour moi, ma réaction excessive, c'est un peu plus léger. Cooper Rush plutôt, devrait demeurer le carrière partant des Cowboys, même lorsque Dak sera en santé. Écoute, il est parfait. En carrière, il a une fiche de 4 victoires, aucune défaite, 3-0 cette année à la place de Dak Prescott. C'est comme si le fait que c'est Cooper Rush qui est au poste de quart et non Dak, que Kellen Moore, le coordinateur à l'attaque, là, ben là, il utilise plus de jeu au sol, il y a un meilleur équilibre. On dirait qu'il a des meilleurs plans de match parce qu'il ne mise pas sur un Superman à la position de quart arrière. Alors ça, c'est ma réaction excessive. Cooper Rush, écoute, it's rush hour à Dallas. Regarde Cooper Rush dans la formation. Et on continue d'aller de l'avant, même si Dak est en santé. Mais comme on dit, c'est une réaction excessive. On va voir si Dak va revenir au jeu dès cette semaine ou la semaine prochaine. Bon, ben écoute, Jean-Philippe, je te remercie de ton passage. Je sais que tu es occupé. C'est pour ça que tu es dans ta voiture, mais bon, au moins le service Internet a bien fonctionné, on n'a pas eu trop de troubles. Alors écoute, je te souhaite de passer une bonne fin de journée, puis on se reparle très prochainement.
Et merci beaucoup de l'invitation, on te dit à bientôt.
Ah, attention à toi, bonne fin de journée. Alors maintenant, on va se tourner du côté du fantasy football, étant donné que, comme je disais tout à l'heure, hein, ça va déjà être la 5e semaine d'activité qui va commencer. Dès jeudi soir, alors ça va très vite cette saison-là qui se déroule. Et également, 5e semaine au niveau du fantasy football. Alors, étant donné qu'on enregistre le podcast mardi, on va pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du waiver wire en compagnie de Marc-André Chaloux, quels sont les joueurs à cibler cette semaine. Il y a toujours des joueurs qui sortent dans l'ombre semaine après semaine. Et on se dit, mon Dieu, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher ce joueur-là? Alors, sans plus tarder, on accueille Marc-André qui va nous dévoiler justement là, ses choix pour la semaine. Alors, qui recommandes-tu? Là? Quels sont les joueurs là, qui ont sauté, là, qui ont retenu ton attention et que tu crois que ça vaut la peine d'aller chercher au niveau du waiver wire?
Geno Smith, Didier, il faut en parler. Il est disponible dans 80. Et Geno Smith, je pensais jamais dire ça, Didier, mais il est le quart arrière fantasy numéro 9 en ce moment. C'est tout simplement incroyable son début de saison. Exact. Les Seahawks n'ont pas voulu laisser cuisiner Russ, mais je crois qu'ils commencent à vouloir laisser cuisiner Geno. Ça n'est rien comprendre. Geno Smith, Didier, est premier dans la NFL en ce moment pour le pourcentage de passes complétées à 77%. En fait, il est le seul quart avec au moins 75% de passes complétées, 1000 verges et au moins 5 passes de toucher dans la NFL. C'est tout simplement incroyable. Il est à 2 matchs de 300 verges également par la passe, donc je veux dire, je le sais, Geno Smith, c'est peut-être éphémère. La semaine numéro 5, les Seahawks affrontent les Saints qui ont accordé le 10e plus bas total de points à un quart fantasy depuis le début de la saison. Mais je vous dis, Geno Smith, en ce moment, c'est un streamer, c'est une solution à court terme pour ceux qui ont perdu Tua Tagovailoa, pour ceux qui attendent le retour de Dak Prescott, pour ceux qui ont des cartes qui ne livrent pas la marchandise en ce moment. Vous pouvez faire pire que Geno Smith en ce moment. Il est à ajouter dans votre formation, selon moi.
Écoute, moi, le carrière qui a été ajouté à la formation, absolument, c'est peu importe qui est le carrière qui affronte la défense des Lions de Détroit. OK? Parce que ça a aidé Geno Smith à connaître un format Les Lions n'ont pas de défense. On en avait parlé cet été. On se dit, il me semble que les Lions sont une équipe qui va être dans des shootouts semaine après semaine. C'est exactement ça qui se passe. Écoute, c'est l'équipe qui a marqué le plus grand nombre de points dans la NFL. 140 points marqués pour les Lions. Ils ont une fiche de 1 victoire et 3 défaites. Ça, c'est à quel point leur défense est mauvaise. C'est pratiquement un exploit, là. D'être 1-3 et d'avoir le plus haut total de points marqués, ça, c'est du jamais vu. Maintenant, quel est l'autre joueur que tu nous recommandes de cibler?
Cordarrelle Patterson, bon, vous avez parlé tout à l'heure avec Jean-Philippe, il a quitté la rencontre, elle a été placée sur la liste des blessés, donc l'effet domino. Ça m'amène à vous parler de Tyler Allgeier, le porteur de ballon des Falcons. C'est un choix de 5e ronde. Il était quand même un sleeper populaire lors des repêchages. Ça se peut qu'il ne soit pas disponible dans votre pool, mais il est vraiment disponible dans la majorité des ligues fantasy. C'est qui Tyler Allgeier? Ben, premièrement, en l'absence de Patterson dimanche, il a obtenu 10 courses, 84 verges contre les Browns. Ça a été le meneur au niveau NCAA l'année passée à BYU pour les verges dans la NCAA au grand complet. Donc, c'est pas un porteur de ballon. Il y a un potentiel ici en termes, on parle de Tyler Allgeier, et vous en avez parlé. Ça a été fascinant le match des Falcons contre les Browns dimanche dernier. Les Falcons ont utilisé le jeu au sol à outrance, même à un moment donné dans le match. On a vu 14 courses de suite de la part des Falcons. Wow. Marcus Mariota a lancé seulement 7 passes, a complété seulement 7 passes. Donc, je me dis qu'il y a de la valeur, qu'il y a de l'intérêt ici pour Tyler Allgeier. Je sais que la semaine numéro 5 ne sera pas facile. Ce sera contre les Buccaneers de Tampa Bay. On sait probablement que les Falcons vont tirer de l'arrière. Donc, on va probablement abandonner le jeu au sol assez rapidement. Mais à tout le moins, c'est bon d'avoir un partant ou d'avoir un porteur de ballon qui peut vous dépanner. Il y aura la majorité des courses, selon moi, sur votre banc. Et si vous êtes bien mal pris, peut-être même l'insérer dans votre formation comme flex ou comme porteur de ballon numéro 3. C'est un bon conseil, je pense, à avoir dans le cas de Tyler Allgeier.
Il y a également un autre demi à l'attaque qui retient ton attention et selon toi, ça vaut la peine justement de le cibler. Il s'agit de Mike Boone.
Javonte Williams est blessé, vous en avez parlé. L'effet domino maintenant, c'est Melvin Gordon. Mais le problème avec Melvin Gordon, Didier, c'est qu'il est pourri en ce moment. je veux dire, il a échappé, vous en avez parlé, il a 4 ballons échappés en 4 matchs, 5 en 5 si on remonte à l'année dernière. Donc, et on a vu
Mike Boone,
c'est Mike. Oui, absolument.
Et on a vu. La bonne conscience, ce genre de conscience qu'on veut, mais bref, ouais.
Et on a vu, c'est Mike Boone même qui a obtenu la majorité des portées ou des occasions dans le champ arrière des Broncos lors du dernier match, une fois Javonte Williams parti. Et Mike Boone, là, Didier, ses statistiques en carrière sont quand même excellentes. Il a une moyenne de 5,6 verges par course au cours de sa carrière. 3 fois dans sa carrière, il a obtenu ou il a joué au moins la moitié des jeux lors d'un match. Il a obtenu en moyenne 15 points fantasy, donc c'est un joueur non négligeable selon moi et je sais que ce sera probablement Melvin Gordon, le partant qui n'est pas disponible dans votre fil de joueurs autonomes, mais d'ajouter Mike Boone, et la semaine numéro 5, c'est jeudi, c'est contre les Colts. Les Colts ont quand même accordé le 13e plus bas total de points à un porteur de ballon cette saison en termes de fantasy, mais Derrick Henry s'est quand même amusé lors du dernier match. Je pense que Mike Boone est un ajout nécessaire sur votre banc cette semaine.
Et un autre joueur que tu nous recommandes de cibler au niveau du waiver wire, c'est un joueur dont on avait énormément parlé lors des matchs préparatoires, George Pickens, la semaine dernière, contre les Browns, il a réussi un catch tout à fait spectaculaire, probablement le catch de l'année dans la NFL, il était à l'horizontale dans les airs, réussi à attraper le ballon et demain, faisait passer au catch qu'Odell Beckham avait réussi au début de sa carrière lorsqu'il portait les couleurs des Giants de New York. Alors pourquoi tu recommandes d'aller chercher George Pickens des Steelers?
C'est pas le talent, c'était pas le potentiel du côté de George Pickens, c'était surtout Mitch Trubisky le problème, je pense. Il a obtenu 6 réceptions, 102 verges lors du dernier match, il a été ciblé 8 fois, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a obtenu 71 de ses 102 verges lorsque Kenny Pickett est embarqué sur le terrain. En fait, Kenny Pickett a tenté 13 passes lors du match et il a ciblé 5 fois George Pickens, donc ça, c'est bon pour un ratio de 38%. Donc, il a été ciblé 38% du temps, George Pickens, par Kenny Pickett. Donc, ça, c'est de bon augure. Donc, je dis pas que George Pickens est vraiment le receveur numéro un des Steelers en ce moment. Je pense que même s'il connaît un mauvais début de saison, Deontay Johnson demeure le receveur numéro un. Mais il est clairement le receveur numéro deux de l'équipe. Où est Chase Claypool en ce moment, Didier? Je le sais pas. Mapletron, hein? Un érable. Je pense que les feuilles à l'automne des érables tombent. Chase Claypool aussi en ce moment. Donc, ce serait intéressant de voir ce que George Pickens pourra accomplir dans les prochaines semaines, parce que les prochaines semaines seront difficiles quand même pour les Steelers. Ils affrontent les Bills, les Buccaneers, les Dolphins et Philadelphie. Ce sera pas une sortie à la Casa Corfu pour George Pickens, mais à tout le moins l'ajouter sur votre banc, ce sera intéressant et pour la suite des choses.
Ouais, c'est drôle que tu mentionnes le nom de Chase Claypool, parce que j'en parlais en dehors des zones avec Bruno Eppel hier. On se demandait qu'est-ce qu'il fait justement. T'sais, même la saison dernière, ça a été décevant. En fait, il a juste eu son année recrue où est-ce qu'il a été très productif. Bon, c'est vrai que la position carrière du côté des Steelers la saison dernière, c'était pas très fort avec Roethlisberger qui était en fin de carrière. Au début de cette année, bon, Mitchell Trubisky, lui, il a été égal à lui-même. Alors, j'ai hâte de voir s'il va pouvoir se mettre en marche. Mais George Pickens a décidément, comme tu l'as dit, son talent est indéniable. On l'avait vu lors des matchs préparatoires. La statuité qu'avec Kenny Pickett, qui sera ciblé au cours des prochaines rencontres. Maintenant, quels sont d'autres joueurs qui, selon toi, ça vaut la peine peut-être d'ajouter sur notre banc ou qui vont avoir la chance d'être productifs dans les prochaines semaines à venir?
Teddy Bridgewater, carrière des Dolphins. Bon, ce n'est pas les gros chars, comme on dit en bon québécois, mais c'est un carrière numéro un. Il affronte les Jets cette semaine. C'est toujours utile, un carrière numéro un lorsqu'on affronte les Jets. Les Jets sont accordés en moyenne 20 points fantasy par match au corps adverse cette saison. Donc, Teddy Bridgewater, bien mal pris. C'est une option quand même envisageable pour vous. Je veux vous parler de Rashad White. Ce n'était vraiment pas la soirée de Leonard Fournette dimanche du côté des Buccaneers contre les Chiefs. Ça l'a amené Rashad White à jouer 24 jeux contre 39 pour Leonard Fournette. Il a inscrit un touché Rashad White. Et ce qu'on remarque du côté des Buccaneers, c'est que si on veut que Leonard Fournette soit efficace cette saison, ben, il faudra quand même gérer sa charge de travail. Il ne peut pas soutenir une charge de travail vraiment complète lors d'un match. Donc, ça l'amène peut-être plus d'occasions pour Rashad White. Il est à mettre sur votre radar. Je vais vous parler de Caleb Huntley, qui est l'autre porteur de ballon des Falcons, qui, à un moment dans le match, est comme sorti d'un canon. Il a obtenu 10 courses, 56 verges. Il a inscrit un touché contre les Browns. Il était vraiment excellent. Il était vraiment explosif sur le terrain. Donc, c'est un nom à retenir, à mettre sur votre banc également. Il coûte moins cher en ce moment que Tyler Allgeier. Et je veux terminer avec le receveur Alec Pierce des Colts. C'est un choix de deuxième ronde, Alec Pierce. Il a été ciblé 11 fois par Matt Ryan lors des deux derniers matchs. Il a obtenu 141 verges. On sait, Matt Ryan, ça peut poser un problème au niveau fantasy pour les receveurs des Colts. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de longs ballons lancés en direction de Alec Pierce au cours des derniers matchs. Il y a un carrousel d'alliés rapprochés également avec les Colts qui peuvent venir jouer dans vos plates-bandes. La semaine dernière, c'était Mo Hallicott. La semaine avant, c'est Jelani Woods. Donc, cette semaine, ça risque d'être Kylan Grayson, j'imagine, si la tendance se maintient.
C'est à son tour. Ouais.
Mais, ouais, exact. Mais Alec Pierce, je pense qu'il est en train vraiment de s'établir comme le numéro 2 dans cette attaque-là derrière Michael Pittman, qui lui aussi, va se le dire, c'est un peu inquiétant dans son cas, Michael Pittman.
Ouais, ben écoute, Matt Ryan, statistiquement, il a connu son meilleur match de la saison dimanche dernier, mais c'est la ligne à l'attaque qui paralyse les joueurs que tu viens de mentionner, même Jonathan Taylor également ne connaît pas la saison à laquelle on s'attendait. Pourtant, la ligne à l'attaque des Colts était supposée être une des meilleures de la NFL, puis semaine après semaine, on n'est pas capable de créer des brèches pour le jeu au sol, on a des ennuis en termes de protection, alors ça, c'est un impact sur les statistiques au niveau du fantasy football de Matt Ryan et des receveurs de passe que tu viens de nommer. Du côté des coachs, j'ai bien hâte de voir si on va être en mesure de redresser la barque. Comme tu sais, j'avais embarqué sur le bandwagon des coachs cet été, mais c'est pas grave, j'ai changé le bandwagon, celui des Jaguars maintenant, du côté de la section sud américaine.
Elle était si bonne la ligne à l'attaque des coachs, il n'y avait ça pas si longtemps que ça, hein?
Oui, non, ben c'est ça, écoute. Puis l'année dernière, c'était une bonne ligne à l'attaque. Je veux dire, Carson Wentz, on avait décidé que Carson Wentz était le problème, avec raison, mais Jonathan Taylor a connu toute une saison, mené la ligue pour des verges au sol. La ligne à l'attaque avait créé des brèches. Puis là, cette année, ben on a beaucoup d'ennuis. Bref, on va voir si on sera en mesure de se replacer du côté d'Indianapolis. Ah ben écoute, Marc-André, je te remercie de tes conseils Fantasy Football, puis on va se reparler la semaine prochaine. Je remercie bien sûr les gens qui nous ont regardés ou qui téléchargent le podcast à toutes les semaines. C'est grandement apprécié. Partagez le lien du podcast avec vos amis si vous aimez ce qu'on fait. Alors, je vous souhaite de passer une bonne semaine et on se reparle bien sûr la semaine prochaine dans le cadre du podcast Le Sac du Cœur. Good job, Mark.